Chapitre 6. Le salon et le boudoir. Il existait encore sous Louis-Philippe, dans la rue Folie-Méricourt à Paris, un échantillon de cette petite et précieuse architecture des premières années de la Régence. Il y avait là-dedans un peu de fantaisie, un peu de grec, un peu de chinois. Les ordonnances faisaient ce qu'elles pouvaient pour se rattacher à quelqu'un des quatre styles helléniques, mais l'ensemble tenait du kiosque et les lignes fuyaient tout autrement qu'au Parthénon. C'étaient des bonbonnières dans toute l'acception du mot. Aux fidèles bergers, on fabrique encore quantité de ces boîtes en carton à renflure turque ou siamoise, hexagone pour la plupart, et dont la forme heureuse fait la joie des acheteurs de bon goût. La petite maison de Gonzague avait la figure d'un kiosque, déguisé en temple. La Vénus poudrée du XVIIIe siècle y eut choisi ses autels. Un petit péristyle blanc, flanqué de deux petites galeries blanches, dont les colonnes corinthiennes supportaient un premier étage, caché derrière une terrasse. Le second étage, sortant tout à coup des proportions carrées du bâtiment, s'élevait en belvédère à six pans, surmonté d'une toiture en chapeau chinois. C'était hardi, selon l'opinion des amateurs d'alors. Les possesseurs de certaines villas « délicieuses » répandues autour de Paris pensent avoir inventé ce style macaron. Ils sont dans l'erreur. Le chapeau chinois et le belvédère datent de l'enfance de Louis XV. Seulement, l'or, jeté à profusion, donnait aux excentricités d'alors un aspect que nos villas économiques, quoique délicieuses, ne peuvent point avoir. L'extérieur de ces cages à jolis oiseaux pouvait être blâmé par un goût sévère, mais il était mignon, coquet, élégant. Quant à l'intérieur, personne n'ignore les sommes extravagantes qu'un grand seigneur aimait à enfouir dans sa petite maison. Monsieur le prince de Gonzague, plus riche, lui tout seul, qu'une demi-douzaine de très grands seigneurs ensemble, n'avait pu manquer de sacrifier à cette mode fastueuse. Sa folie passait pour une merveille. C'était un grand salon hexagone dont les six pans formaient les fondations du belvédère. Quatre portes s'ouvraient sur quatre chambres ou boudoirs qui eussent été de forme trapézoïde sans les serres enclaves qui la régularisaient. Les deux autres portes, qui étaient en même temps des fenêtres, donnaient sur des terrasses ouvertes et chargées de fleurs. Nous avons peur de nous exprimer mal. Cette forme était un raffinement exquis dont le Paris de la Régence offrait tout au plus trois ou quatre exemples. Pour être mieux compris, nous prierons le lecteur de se figurer un premier étage qui serait un parterre, et de tailler dans ce parterre, sans s'occuper des rognures, une pièce centrale à six pans, escortée de quatre boudoirs carrés, placés comme les ailes d'un moulin à vent, les deux pans principaux s'ouvrant sur des terrasses. Les rognures telles quelles, ou modifiées par l'adjonction de cabinets, formaient un parterre intérieur, communiquant avec les terrasses, et laissant pénétrer, dès qu'on le voulait, l'air avec le jour. Le duc d'Antin avait dessiné lui-même cette mignarde croix de Saint-André pour la folie supplémentaire qu'il avait au hameau de Miroménil. Dans le salon de la folie Gonzague, le plafond et les frises étaient de Vandeloup l'aîné et de son fils Jean-Baptiste, qui tenait alors le sceptre de la peinture française. Deux jeunes gens, dont l'un n'avait encore que 15 ans, Karl Vandeloup, frère cadet de Jean-Baptiste, et Jacques Boucher avaient eu les panneaux. Ce dernier, élève du vieux maître Lemoine, fut célèbre du coup, tant il mit de charme et de voluptueux abandon dans ses deux compositions, les filets de Vulcain et la naissance de Vénus. L'ornement des quatre boudoirs consistait en copies de l'Albane et de Primatis, confiées au pinceau de Louis Vandeloup, le père. C'était princier, dans toute la force du terme. Les deux terrasses, en marbre blanc, avaient des sculptures antiques, on n'en voulait point d'autres, et l'escalier, aussi de marbre, était cité comme le chef-d'œuvre d'Oppenor. Il était 8 heures du soir environ. Le souper promis avait lieu. Le salon était plein de lumières et de fleurs. La table resplendissait sous le lustre, et le désordre des mets prouvait que l'action était déjà depuis longtemps engagée. Les convives étaient nos roués à la suite, parmi lesquels le petit marquis de Chaverny se distinguait par une ivresse prématurée. on n'était encore qu'au second service, et déjà, il avait perdu à peu près complètement la raison. Choisy, Navaille, Montaubert, Tarane et Albret avaient meilleure tête, car ils se tenaient droit et gardaient conscience des folies qu'ils pouvaient dire. Le baron de Batz, muet et raide, semblait n'avoir bu que de l'eau. Il y avait des dames, bien entendu, et bien entendu, ces dames appartenaient en majeure partie à l'opéra. C'était d'abord Mademoiselle Fleury, pour qui M. de Gonzague avait des bontés. C'était ensuite Mademoiselle Nivelle, la fille du Mississippi, la grosse et ronde Cydalise, bonne fille, nature d'éponge qui absorbait madrigaux et mots spirituels pour les rendre en sottise, pour peu qu'on la pressât. Mademoiselle Desbois, Mademoiselle d'Orbigny, et cinq ou six autres demoiselles, également ennemies de la gêne et des préjugés. Elles étaient toutes belles, jeunes, gaies, hardies, folles et prêtes à rire, même quand elles avaient envie de pleurer. Telle est la qualité de l'emploi. On ne prend pas un avocat pour qu'il ne plaide pas. Une danseuse triste est un pernicieux produit qu'il faut laisser pour compte. Certaines gens pensent que le plus lugubre point de ces existences navrantes, et parfois navrées, qui frétillent dans la gaze rose comme le poisson dans la poêle, c'est de n'avoir point le droit de pleurer. Gonzague était absent. On venait de le mander au palais royal. Outre le siège qui l'attendait, il y avait trois autres sièges vides. D'abord, celui de Dona Cruz, qui s'était sauvé lors du départ de Gonzague. Dona Cruz avait ensorcelé tout le monde autour de la table, bien qu'elle eût empêché l'entretien d'arriver à ce haut diapason qu'atteignait, dit-on, dès le premier service, une orgie de la régence. On ne savait pas bien au juste si le prince de Gonzague avait forcé Dona Cruz à venir, ou si la charmante folle avait forcé le prince à lui faire place. La chose certaine, c'est qu'elle avait été éblouissante, et que tout le monde l'adorait, sauf le bon petit Auriol, qui restait fidèlement l'esclave de Mademoiselle Nivelle. Le second siège vide n'avait point encore été occupé. Le troisième appartenait au bossu Ésope II, dit Jonas, que Chaverny venait de vaincre en combat singulier à coups de verre de champagne. Au moment où nous entrons, Chaverny, abusant de sa victoire, entassait des manteaux, des douillettes, des mantes de femme sur le corps de ce malheureux bossu, enseveli dans une immense bergère. Le bossu, ivre-mort, ne se plaignait point. Il était complètement caché sous ce monceau de dépouilles, et Dieu sait qu'il courait grand risque d'étouffer. Au reste, c'était bien fait. Le bossu n'avait point tenu ce qu'il avait promis. Il s'était montré taciturne, maussade, inquiet, préoccupé. À quoi pouvait penser ce pupitre ? À bas le bossu ! C'était bien la dernière fois qu'il assistait à semblable fête. Une question que l'on s'était adressée plus d'une fois avant d'être ivre, c'était à savoir pourquoi Dona Cruz elle-même y assistait. Gonzague avait l'habitude de ne rien faire au hasard. Jusqu'alors, il avait caché cette Dona Cruz aussi soigneusement que s'il eût été son tuteur espagnol. Et maintenant, il la faisait souper avec une douzaine de vauriens, c'était pour le moins fort étrange. Chaverny avait demandé si c'était là sa fiancée. Gonzague avait secoué la tête négativement. Chaverny avait voulu savoir où était sa fiancée. On lui avait répondu « Patience ». Quel avantage Gonzague pouvait-il avoir à traiter ainsi une jeune fille qu'il voulait produire à la cour sous le nom de Mademoiselle de Nevers? C'était son secret. Gonzague disait ce qu'il lui plaisait de dire, rien de plus. On avait bu en conscience. Ces dames étaient fort gaies, excepté la Nivelle, qui avait le vin mélancolique. Cydalise et Desbois chantaient la gaudriole. La Fleury s'égosillait à demander les violons. Auriol, rond comme une boule, racontait ses triomphes d'amour, auxquels personne ne voulait croire. Les autres buvaient, riaient, criaient, chantaient. Le vin était exquis, la chair délicieuse. Nul ne gardait souvenir des menaces qui planaient sur le festin de Balthazar. Monsieur de Pérols seul conservait sa figure de carême prenant. La gaieté générale, qu'elle fût ou non de bon aloi, ne le gagnait point. « Est-ce que personne n'aura la charité de faire taire Monsieur Auriol ? demanda la Nivelle d'un ton triste et ennuyé. Sur 10 femmes galantes, il y en a 5 pour le moins qui ont cette manière de se divertir.
« La paix, Auriol » fit-on.
« Je ne parle pas si haut que Chaverny !» répondit le gros petit traitant.
« Nivelle est jalouse. Je ne lui dirai plus mes fredaines. »«
Innocent !» murmura la Nivelle, qui se gargarisait avec un verre de champagne.
« Combien t'en a-t-il donné ?» demandait Cydalise à Fleury.
« 3, ma chère. »«
Des bleus ?»«
2 bleus et une blanche. »«
Et tu le reverras ?»«
Jamais, il n'en a plus !»
« Mesdames, dit la Desbois, je vous dénonce le petit Mailly qui veut être aimé pour lui-même. »«
Quelle horreur !»
fit tout d'une voix la partie féminine de l'assemblée. En face de cette prétention blasphématoire, volontiers eussent-elles répété, comme monsieur le baron de Barbanchois, « Où allons-nous ? Où allons-nous ?» Chaverny était revenu s'asseoir.
« Si ce coquin d'Ésope s'éveille, dit-il, « je le noie !»
Son regard alourdi fit le tour de la salle.
« Je ne vois plus la divinité de notre Olympe !» s'écria-t-il. « J'ai besoin de sa présence pour vous expliquer ma position. »«
Pas d'explication au nom du ciel !» fit Cydalise.
« J'en ai besoin !»
reprit Chaverny, qui chancelait sur son fauteuil. « C'est une affaire de délicatesse.
50 000 écus, ne voilà-t-il pas le Pérou ?
Si je n'étais pas amoureux... »«
Amoureux de qui ? » interrompit Navaille.
« Tu ne connais pas ta fiancée. »«
Voilà l'erreur. Je vais vous expliquer ma position. »«
Non, non ! Si, si !» gronda le cœur.
Une petite blonde ravissante, comtait Auriol à Choisy, qui dormait.
« Elle me suivait comme un bichon. Impossible de m'en débarrasser. »
Vous sentez, j'avais peur que Nivelle ne nous rencontrât ensemble. Au fond, il n'y a pas de tigresse pour être jalouse comme cette Nivelle. Enfin.
Alors, cria Chaverny, si vous ne voulez pas me laisser parler, dites-moi où est Donna Cruz. Je veux Donna Cruz.
Donna Cruz, Donna Cruz, répéta-t-on de toutes parts.
Chaverny a raison, il nous faut Donna Cruz.
« Vous pourriez bien dire Mademoiselle de Nevers !»
prononça sèchement Pérol. Un long éclat de rire couvrit sa voix, et chacun répéta.
« Mademoiselle de Nevers, c'est juste ! Mademoiselle de Nevers !»
On se leva en tumulte. « Ma position !» commença Chaverny. Tout le monde se sauva de lui et courut à la porte par où Donna Cruz était sortie.
« Auriol ! » fit la Nivelle.
« Ici, tout de suite !»
Le gros petit traitant ne se fit point prier. Il eût voulu seulement que cette familiarité n'échappât à personne.
« Asseyez-vous près de moi !» ordonna Nivelle en bâillant à se fendre la mâchoire.
« Et contez-moi l'histoire de Podane. J'ai sommeil. »
« Il était une fois, » commença aussitôt le docile Auriol.
« As-tu joué aujourd'hui ?» demanda Cydalise à Desbois.
« Ne m'en parle pas. Sans la fleur, mon laquais, j'aurais été obligée de vendre mes diamants. »«
La fleur ? Comment ?»«
La fleur est millionnaire, depuis hier, et me protège depuis ce matin. »«
Je l'ai vu !» s'écria la Fleurie. « Il a, ma foi, fort bon air. »«
Il a acheté les équipages du marquis de Bellegarde, qui est en fuite. »«
Il a la maison du vicomte de Villedieu, qui s'est pendu. »
On parle de lui ?
Je crois bien. Il a fait une chose adorable, une distraction à la Brancasse.
Aujourd'hui, comme il sortait de la maison d'or, son carrosse l'attendait dans la rue. L'habitude l'a emporté, il est monté derrière.
Donna Cruz ! Donna Cruz ! Criaient ces messieurs. Chaverny frappa à la porte du boudoir où l'on supposait que la charmante espagnole s'était retirée.
« Si vous ne venez pas, menaça Chaverny, nous faisons le siège. »«
Oui, oui, un siège. »«
Messieurs, messieurs, disait Pérol. »
Chaverny le saisit au collet.
« Si tu ne te tais pas, toi, hibou, s'écriait-il, nous nous servons de toi comme d'un bélier pour enfoncer la porte. »
Dona Cruz n'était point dans le boudoir, dont elle avait fermé la porte à clef en se retirant. Le boudoir communiquait avec le rez-de-chaussée, par un escalier dérobé. Dona Cruz était descendue au rez-de-chaussée, où elle avait sa chambre à coucher. Sur le sofa, la pauvre Aurore était là toute tremblante et les yeux fatigués de larmes. Il y avait 15 heures qu'Aurore était dans cette maison. Sans Dona Cruz, elle fut morte de chagrin et de peur. Dona Cruz était déjà venue 2 fois la voir depuis le commencement du souper. « Quelle nouvelle ?» demanda Aurore d'une voix faible. « Monsieur de Gonzague vient d'être mandé au palais, » répondit Dona Cruz. « Tu as tort d'avoir peur, va, ma pauvre petite sœur. Là-haut, ce n'est pas bien terrible. Et si je ne te savais pas ici, inquiète, triste, accablée, je m'amuserais de tout mon cœur. Que fait-on dans le salon ? Le bruit vient jusqu'ici. Des folies. On rit à gorge déployée. Le champagne coule. Ces gentilshommes sont gais, spirituels, charmants. Un surtout, que l'on nomme Chaverny. » Aurore passa le revers de sa main sur son front, comme pour rappeler un souvenir. « Chaverny ? » répéta-t-elle. « Tout jeune, tout brillant, ne craignant Dieu ni diable. Mais il m'est défendu de m'occuper trop de lui, » s'interrompit-elle. « Il est fiancé. »« Ah ! » fit Aurore d'un ton distrait. « Devine avec qui, petite sœur ?»« Je ne sais pas, que m'importe cela ?»« Il t'importe assurément. C'est avec toi que le jeune marquis de Chaverny est fiancé. » Aurore releva lentement sa tête pâle et sourit tristement. « Je ne plaisante pas !» insista Dona Cruz. « De ses nouvelles à lui, » murmura Aurore. « Ma sœur, ma petite Flore, ne m'apportes-tu point de ses nouvelles ?» « Je ne sais rien, absolument rien. » La belle tête d'Aurore retomba sur sa poitrine, tandis qu'elle poursuivait en pleurant. « Hier, ces hommes m'ont dit, lorsqu'ils nous attaquèrent, « Il est mort, Lagardère est mort. » « Quant à cela, » fit Dona Cruz, « moi je suis sûre qu'il n'est pas mort. »« Qui te donne cette certitude ?» demanda vivement Aurore. « 2 choses. La première, c'est qu'ils ont encore peur de lui, là-haut. La seconde, c'est que cette femme, celle qu'ils ont voulu me donner pour mère, son ennemie, celle que j'ai vue la nuit dernière au palais royal ? Oui, son ennemie. D'après ta description, je l'ai bien reconnue. La seconde raison, disais-je, c'est que cette femme le poursuit toujours. Son acharnement n'a point diminué. Quand j'ai été me plaindre aujourd'hui à monsieur de Gonzague, du singulier traitement qu'on m'avait fait subir chez toi, rue Pierre Lescot, je l'ai vue, cette femme, et je l'ai entendue. Elle disait à un seigneur en cheveux blancs, qui sortait de chez elle, « Cela me regarde, c'est mon devoir et mon droit. J'ai les yeux ouverts, il ne m'échappera pas. Et quand la 24e heure sonnera, il sera arrêté. Fallut-il pour cela ma propre main ?»« Oh !» dit Aurore, « ce ne peut être que la même femme. Je la reconnais à sa haine. » Et voilà plus d'une fois que l'idée me vient. « Quelle idée ?» demanda Dona Cruz. « Rien, je ne sais. Je suis folle. » « Il me reste une chose à te dire, » reprit Dona Cruz avec hésitation. « C'est presque un message que je t'apporte. Monsieur de Gonzague a été bon pour moi, mais je n'ai plus confiance en Monsieur de Gonzague. Toi, je t'aime de plus en plus, ma pauvre petite Aurore. » Elle s'assit sur le sofa auprès de sa compagne et poursuivit. « Monsieur de Gonzague m'a certainement dit cela pour que je te le répète. »« Que t'a-t-il dit ?» interrogea Aurore. « Tout à l'heure, » répondit Dona Cruz, « quand tu m'as interrompu pour me parler de ton beau chevalier Henri de Lagardère, j'en étais à t'apprendre qu'on voulait te marier avec le jeune marquis de Chaverny. Mais de quel droit me marier ?»« Je l'ignore. » Mais on ne semble pas se préoccuper beaucoup de la question de savoir si l'on a droit ou non. Gonzague a lié conversation avec moi. Dans le cours de l'entretien, il a glissé ses paroles. Si elle se montre obéissante, elle sauvera d'un danger mortel tout ce qu'elle a de plus cher au monde. « Lagardère ! » s'écria Aurore. « Je crois, » répondit l'ancienne gitanita, «
qu'il voulait parler de Lagardère. Aurore cacha sa tête entre ses mains.
« Il y a comme un brouillard sur ma pensée, » murmura-t-elle. « Dieu n'aura-t-il pas pitié de moi ?»
Dona Cruz l'attira contre son cœur. « N'est-ce pas Dieu qui m'a mise là, près de toi ? » fit-elle doucement. « Je ne suis qu'une femme, mais je suis forte et je n'ai pas peur de mourir. S'il t'attaquait, Aurore, tu aurais quelqu'un pour te défendre. »
Aurore lui rendit son étreinte. On commençait à entendre les voix tumultueuses de ceux qui appelaient Dona Cruz.
« Il faut que je m'en aille, » dit celle-ci. Puis, sentant qu'Aurore tremblait tout à coup dans ses bras, « Pauvre cher enfant, » reprit-elle, « comme la voilà pâle. »«
J'ai peur ici quand je suis toute seule, » balbutia Aurore. « Ses valets, ses servantes, tout me fait peur. »«
Tu n'as rien à craindre, » répondit Dona Cruz. « Ses valets, ses servantes savent que je t'aime. Ils croient que mon pouvoir est grand sur l'esprit de Gonzague. »
Elle s'interrompit et parut réfléchir. « Il y a des instants où je le crois moi-même, » poursuivit-elle. « L'idée me vient parfois que Gonzague a besoin de moi. »
À l'étage supérieur, le bruit redoublait. Dona Cruz se leva et reprit le verre de champagne qu'elle avait déposé sur la table.
« Conseille-moi, guide-moi, » dit Aurore.
« Rien n'est perdu s'il a vraiment besoin de moi, » s'écria Dona Cruz. « Il faut gagner du temps. »«
Mais ce mariage, je préférerais mille fois la mort. »«
Il est toujours temps de mourir, chère petite sœur. »
Comme elle faisait un mouvement pour se retirer, Aurore la retint par sa robe.
« Vas-tu donc m'abandonner tout de suite ? » dit-elle.
« Ne les entends-tu pas ?
Ils m'appellent. »
« Mais, » fit-elle en se ravisant tout à coup, « t'ai-je parlé du bossu ?»«
Non, » répondit Aurore.
« Quel bossu ? » ?»«
Celui qui me fit sortir d'ici hier au soir par des chemins que je ne connaissais pas moi-même. Celui qui me conduisit jusqu'à la porte de ta maison.
Il est ici ? » ?»«
Au souper ? » ?»«
Au souper ?»
Comme je me suis souvenu de ce que tu m'as dit, de cet étrange personnage qui seul est admis dans la retraite de ton beau Lagardère,
ce doit être le même, fit Aurore.
J'en jurerais. Je me suis rapprochée de lui pour lui dire que, le cas échéant, il pouvait compter sur moi.
Eh bien, c'est le bossu le plus bizarre qui ait abusé jamais du droit de caprice. Il a fait semblant de ne point me reconnaître. Impossible de tirer de lui une parole. Il était tout entier à ces dames, qui s'amusaient de lui et le faisaient boire furieusement, si bien qu'il est tombé sous la table.
« Il y a donc des femmes en haut ?» demanda Aurore.
« Je crois bien, » répondit Dona Cruz.
« Quelles femmes ?»«
Des grandes dames, » répliqua la gitana de bonne foi. « Va, ce sont bien là les parisiennes que j'avais rêvées dans notre Madrid. Les dames de la cour ici chantent, rient, boivent, jurent comme des mousquetaires. « C'est charmant. »«
Es-tu bien sûr que ce soit des dames de la cour ?»
Dona Cruz fut presque offensée.
« Je voudrais bien les voir, » dit encore Aurore.
« Sans être vue, » ajouta-t-elle en rougissant.
« Et ne voudrais-tu point voir aussi ce joli petit marquis de Chaverny ?» demanda Dona Cruz avec un peu de moquerie.
« Si fait, » répondit Aurore simplement. « Je voudrais bien le voir. »
La gitana, sans lui donner le temps de la réflexion, la saisit par le bras en riant et l'entraîna vers l'escalier dérobé. Là, les deux jeunes filles n'étaient plus séparées de la fête que par l'épaisseur d'une porte. On entendait 20 voix qui criaient, parmi le choc des verres et les éclats de rire.
« Faisons le siège du boudoir ! À l'assaut ! À l'assaut !»